おかしいおかしい。
Bonsoir. Les affrontements armés au Nord Kivu, la grève des agents nationaux de la MONUC, les compromis entre les gouvernements centrales et les provinces sur la retenue à la source des 40% des recettes de l'État par ces provinces, voilà les sujets qui seront débattus ce soir dans cette tribune de la presse. Tribune de la presse qui reçoit dans ses studios Désiré Bayeré, rédacteur en chef du journal du Citoyen. Au téléphone, nous aurons Benoît Kambéré, journaliste de la revue Renet. Il intervient à partir de Béni, au Nord Kivu. Nous aurons aussi Patrick Casson, directeur des programmes de la radio-télé évangélique de Mwanda au Bakongo. À tous, nous disons bienvenue. Une semaine très agitée dans les territoires des Massissi, au Nord Kivu. Hier jeudi, de nouveaux combats ont opposé les militaires fidèles à Laurent Nkunda aux militaires loyalistes dans les secteurs des Katale, à 65 km au sud-ouest de Goma, dans les territoires des Massissi. Selon des témoins sur place, les belligérants ont fait recours aux armes lourdes et légères dans ces combats, combats qui ont causé de nombreux déplacements des populations. La société civile du Nord Kivu est montée hier même au créneau pour condamner ces affrontements depuis 3 jours et leurs conséquences dans les territoires des Massissi. Elle a adressé un mémorandum au Premier ministre et chef du gouvernement congolais, lui demandant de tout faire pour mettre immédiatement fin aux hostilités qui se déroulent actuellement dans les territoires des Massissi. Écoutons Jason Luneno, président de la société civile du Nord Kivu, au micro de Sifa Maguro.
Il y a 2 jours que la population est dans la brousse, mais les hostilités maintenant sont aux portes du territoire de Massissi. La population a quitté Massissi vers Nyabiondo, celle de Nyabiondo quitte Nyabiondo vers Kachebera en territoire de Walikale. Donc il y a une catastrophe humanitaire qui est en vue. Nous avons pris une résolution de lancer un cri d'alarme sur la situation sécuritaire au Nord Kivu, à son excellence, monsieur le Premier ministre. Nous avons constaté qu'il y a fuite de responsabilité par rapport à tout ce qui se passe sur terre actuellement, d'Arutsuru et d'Amassisi. Il y a non-assistance, non-protection à cette population-là. Le gouvernement doit gérer aussi les troupes qui sont sur terre, privées de moyens matériels et moraux nécessaires.
Réagissant à la situation qui prévaut au Nord Kivu, le gouvernement de la République démocratique du Congo réitère son engagement pour une solution pacifique et négociée. C'est le ministre de la Défense qui l'a dit hier à Kinshasa lors d'une conférence de presse. Tshisekedi Tshilombo promet d'envisager d'autres solutions si les choses n'avancent pas dans le sens de la paix. Le ministre de la Défense est au micro de Daniel Tandizouni.
Le 27 de ce mois, le gouvernement sous le Conseil supérieur de défense a pris une série de décisions rappelées la ferme conviction et le ferme engagement du gouvernement. 1. À favoriser l'option pacifique du dialogue sur le plan politique local. Option ou approche commune, concertée avec les pays de la sous-région pour trouver une solution durable. Organisation de la table ronde qui réunirait nos frères sous la houlette de la nation tout entière. Ça, c'est la position du gouvernement. Parce que vous me dites, au regard de ce qui est en train de se faire là-bas, quelle est la position du gouvernement? Je réitère ce que je viens de dire, mais j'ajoute, cela n'est pas une faiblesse. Nous pensons que le dialogue ne tue pas, le dialogue ne détruit pas, mais si jamais cela n'aboutit pas, nous allons l'arrêter avant que les choses n'empirent pour les 90% et les 100% des Congolais. Nous exprimons nos regrets. C'est l'occasion de présenter notre totale désapprobation à ce qui s'est fait.
Benoît Kambéré, je rappelle que vous êtes journaliste de la revue Renaître, vous intervenez depuis Béni au Nord Kivu. Apparemment, l'Est de la République démocratique du Congo reste toujours le ventre mou du pays.
Ben, c'est tout à fait normal et cela, tout le monde, cela est prévisible avec tout ce qui se passe dans le Massissi, avec tout ce qui se passe autour de Goma, avec les troupes mixtes, avec les troupes brassées. Cela devait arriver. Et ce n'est pas les déclarations belliqueuses du ministre de la Défense ou les réunions qu'on tient à Kinshasa qui arrangeront le problème. J'étais la semaine dernière à Bukombe, l'insécurité se porte très bien là-bas. On tue des gens comme des mouches et le gouvernement ne réagit pas. Et ce qui se passe dans le Massissi actuellement, c'était tout à fait prévisible. Moi, cela ne m'étonne pas avec ce désengagement de troupes pour la poursuite des FDNE, avec déjà les affrontements entre les troupes mixées et les troupes mixées entre elles, et ces accords que personne ne respecte, tant du côté du gouvernement que du côté de Kunda. Alors je ne sais pas, c'était tout à fait prévisible. Cela ne m'étonne pas, moi.
Oui, ça ne vous étonne pas, bien sûr. Désiré Bayeré, vous avez suivi l'appel de la société civile du Nord Kivu. Elle constate qu'il y a toutes les responsabilités de la part du gouvernement par rapport à tout ce qui se passe à Masisi et à Rutshuru. Vous avez suivi aussi la réaction du ministre de la Défense nationale. Comment, personnellement, vous faites l'analyse de cette situation?
Il faut dire que c'est à la fois triste et regrettable. Triste parce qu'on est en train de tuer les gens sont en train de quitter leur village, leur maison, leurs biens, et comme ça, ils abandonnent, ils vont se retrouver réfugiés dans leur propre pays, parfois dans leur propre territoire ou dans leur propre province. Ça, c'est vraiment triste. Mais ce qui est regrettable aussi, c'est cette absence de l'autorité de l'État. On voit que le gouvernement est absent de ce point-là. Le gouvernement n'est pas présent. On ne les sent pas. Maintenant, il y a l'étude de la société civile qui parlait tout à l'heure. Il y a l'armée qui est là. Ça, c'est le symbole de l'autorité de l'État. Mais une armée qui est privée des moyens, mais en quoi on va encore l'appeler armée? Ça va être des civils comme moi. Et donc, là, vraiment, c'est ce qui est regrettable. Aujourd'hui, ça fait un beau bout de temps qu'on a déclaré Kunda, on a lancé un arrêt, un mandat d'arrêt international. On nous dit encore aujourd'hui, il faut les dialogues, il faut une solution politique,
il faut négocier.
Mais c'est pas possible. Ou alors, on retire ce mandat d'arrêt, on les réintègre dans l'armée, alors il vient avec tous ses hommes, on lui donne un poste, et puis l'affaire est close. Mais si on continue à le poursuivre, et lui continue à attaquer, on dit qu'on va dialoguer avec lui, mais on ne comprend plus rien dans cette chose-là. On ne comprend presque plus rien. Je pense qu'il faut un gouvernement qui est présent, qui se fait sentir et qui montre ses preuves que voilà, ce gouvernement, c'est un gouvernement issu de la volonté populaire. Parce que la plupart, comme les ministres de la Défense, ces ministres ont été élus d'abord députés. Il y a à peu près une vingtaine de députés qui sont ministres. Et donc, s'ils ont été élus donc pour représenter le peuple, mais comment aujourd'hui ils sont quasiment absents de ce peuple-là, de cette population qui a besoin d'eux? Ça, c'est vraiment regrettable.
Oui, mais le ministre a dit, il était catégorique dans sa déclaration, il dit, si on n'arrive pas, les choses n'avancent pas dans le sens de la paix, on doit utiliser d'autres solutions.
Ah oui, mais ce gouvernement est là depuis combien de mois? Quelle solution il a envisagé depuis là, qui a porté des fruits? On a vu les mixages et tout d'un coup, on nous dit, voilà, on arrête de traquer les FDLR parce que on évite un nouveau génocide. Et puis, on se contredit dans les déclarations des gens du gouvernement et de l'armée. Finalement, sur le terrain, aucune action sensible, aucune action palpable qu'on peut dire que voilà, le gouvernement a fait ceci ou cela. C'est ce qui est regrettable.
Patrick Tasson, vous intervenez depuis Mwanda, au Bas-Congo. À lire bien la situation qui se passe à Masisi, les journaux La Référence Plus nous fait observer que ce sont les éléments des brigades mixées qui se tirent eux-mêmes dessus. Ça ressemble à quoi cette cacophonie?
Cette cacophonie vient du fait qu'il n'y a pas eu, la vraie réintégration, réinsertion. C'est le petit péché du mixage. Là, on est en train d'entremêler des personnes qui, il y a quelques mois, il y a quelques semaines, étaient adversaires. Ils sont obligés de vivre ensemble. Et là, c'est tout à fait normal, ça c'est prévisible. Quand il y a un petit différent, chacun réagit selon sa position d'antan. Et on finit par se tirer dessus. Donc c'est vraiment regrettable, ça donne encore là une grande image de la faiblesse de notre armée. Mais ce qui est vrai, l'heure est à ce dicton qui dit « aux grands mots, les grands remèdes ». Je m'excuserai si c'est pas fait pour ça, mais par moment, il y a ce nom de Laurent Kunda qui revient tout le temps. Mais il y avait aussi un grand de notre armée, où on se demande où est-il passé. C'est devant lui que Kunda a, pour la première fois, plié bagage.
Vous
vous souvenez bien du général Mbunda Mabe, où est-il passé? Il faudrait des hommes comme celui-là, sur un terrain comme celui-là, afin que, comme l'a relevé Désiré, il y a un mandat international. Pour Thomas Lubanga, ça s'est fait facilement. Mais je me demande comment, qui est Laurent Kounda qui échappe même à la communauté internationale. Donc quelque chose, là, il y a un guy sous roche, il faut bien faire la lecture. Il revient tout le temps. Il a toujours cette même position depuis qu'il se réfugie dans le Massissi là-bas. Il n'est jamais inquiété, mais c'est lui, par contre, qui est en train de salir l'honneur de notre armée. Donc pour moi, vraiment, ce qui est arrivé à la brigade Charlie, le mixage, c'est prévisible. Ce sont des mauvais garçons qui, comme vous voyez bien, hein, courent derrière les intérêts de leurs supérieurs et au final, ben, quand on ne s'entend pas, on utilise les moyens communs.
Oui, Benoît Cambéré, hier là même, les FDLR sont entrés aussi en danse dans leur communiqué publié par l'AFP, l'agence France Presse. Elles accusent le régime de Kigali d'avoir envoyé depuis le début de cette année en RDC 12 000 soldats en renfort de Laurent Kounda. Comment trouvez-vous ces accusations?
De la part du FDLR, c'est de bonne guerre. Le FDLR qui sème la mort partout dans le nord Kivu et dans le sud Kivu, il est tout à fait de bonne guerre qu'il accuse le régime de Kigali. Mais le régime de Kigali qui négocie avec le régime de Kinshasa, qui se fait l'intermédiaire de Laurent Kounda avec les autorités de Kinshasa, et tout ça, alors qu'on a dans la région une concertation depuis un moment. Il n'y a pas longtemps, les chefs d'état-major généraux de nos armées se sont retrouvés. C'est dans tout ça qu'il faudrait qu'on trouve des solutions à ce problème. C'est vrai, l'FDLR n'a pas sa place en République démocratique du Congo. L'FDLR qui va arranger ce problème, qui n'a pas arrangé ce problème au Rwanda. La pauvre population qui est en train de souffrir des exactions de ce fameux FDLR, tant au nord qui vous, au sud qui vous, les déplacements et tout le reste, sa place, c'est pas ici. Si vous avez un problème à régler en Rwanda, il est allé le régler en dehors des frontières de la République démocratique du Congo. On en a marre de se communiquer, de querelles entre pays, entre frères de pays étrangers, qu'on vient régler dans notre pays. Si, réellement, parce que, et là, on pourrait dire que nos autorités militaires n'ouvrent pas l'œil et le bon dans cette affaire. Si on peut dire que 12 000 hommes ont été infiltrés dans notre pays sans que les gens, je rejoins des virus, qui disent que ce pays n'est pas gouverné, comment cela puisse être possible? Parce qu'on avait parlé de ce problème de l'histoire depuis le début. On ne savait pas qu'on fait qui avec qui. On n'a pas fait d'identification dans un premier temps, on négocie des choses à la légère, voilà le résultat. Mais le gouverneur peut se plaindre, il n'a qu'à aller se plaindre à Kigali. Et que aussi, le peuple congolais en paix, et que la pauvre population dans les villages, tous ces tireurs d'officiels ne sont pas dans le Massissi, tous ces tireurs d'officiels ne sont pas à Kanyola dans le sud qui vous à Lungu, ils sont peut-être à Kinshasa, ils sont à Kigali, ils sont à travers le monde, quoi, toute la population en paix. Le donneur, s'il a des revendications à faire, il n'a qu'à aller le faire dans son pays, avec ses dirigeants, ils vont peut-être trouver des solutions interrendées, qui foutent le peuple congolais en paix, s'il vous plaît.
Ok, mais non, très bien, on capte votre message. Désiré Bayeré, contacté au sujet de ces accusations par Radio Kapi, le ministre rwandais des Affaires étrangères, Charles Morigande, a déclaré qu'il pouvait répondre si c'était le gouvernement congolais qui s'en plaignait. Mais comme il s'agit des FDLR qui accusent, il souhaitait se taire. Comment trouvez-vous cette réponse, cette réaction du ministre rwandais des Affaires étrangères?
Ben, c'est la réponse d'un diplomate, ce n'est que normal, ce n'est que logique, hein, surtout que c'est à la veille de son voyage au Congo, il ne peut pas faire des déclarations qui puissent le mettre mal à l'aise quand il va venir ici au Congo. Mais j'aimerais aussi dire, hein, c'est un peu ce que Benoît Cambéré a dit tout à l'heure, FDLR, gouvernement de Kigali, je ne sais quoi, ces gens-là, ils ne sont pas congolais, qu'ils aillent se battre chez eux. Qu'ils aillent là-bas, au moins, ils peuvent trouver des solutions entre eux. Je ne sais pas, ils peuvent se tirer dessus, ils peuvent se tuer. Ça, c'est leur problème. Ce n'est pas le problème des Congolais. Autre chose, Laurent Kounda, jusqu'aujourd'hui, personne ne lui a dénié sa nationalité. Il est Congolais. Il est reconnu comme tel.
personne n'a dit qu'il n'est pas congolais. Mais s'il est congolais, mais que ce gouvernement trouve quand même une solution assez rapidement. C'est un problème congolo-congolais, mais alors qu'on puisse régler ce problème-là assez rapidement. Si Kunda a des revendications auprès du gouvernement, mais si on a vu les autres, là, les Cobra Matata, les autres, tout ça, on a trouvé quand même la solution assez rapidement. Pourquoi on n'arrive pas à trouver la solution avec Kunda, s'il est réellement congolais? Et si ce gouvernement est réellement gouvernement congolais, qu'on trouve des solutions pour que la paisible population puisse vraiment vivre justement en paix, qu'on ne puisse pas chaque jour, les enfants ne savent pas rentrer à l'école maintenant, les gens ont abandonné leurs champs, leur élevage, leur culture, tout ce que vous voulez, mais à cause des problèmes dont ils ne sont pas responsables.
Ouais, mais désolé, vous ne trouvez pas quand même que les accusations des FDLR sont graves? 12 000 personnes infiltré en République démocratique du Congo.
Oui, mais ça, c'est les FDLR qui disent, hein, mon frère. Nous sommes journalistes, nous devons toujours, quand il y a une information qui vient d'une source, on doit toujours savoir la nature de cette source-là. Les FDLR ne pouvaient pas dire autrement, hein, ça c'est clair. Et la réponse du ministre rwandais, c'est aussi clair. Mais mon problème, c'est que FDLR, gouvernement rwandais, ce n'est pas congolais. Qu'ils aillent à la frontière, dans l'autre côté, de l'autre côté de la frontière, pour régler leurs différends. D'autre part, si réellement l'information donnée par les FDLR est vraie, ben il faut vraiment, c'est un gouvernement qui doit démissionner.
Oui, je ne vous lâche pas. Il y a l'Union européenne qui propose une table ronde entre les deux pays en octobre prochain, disons le Rwanda et la République démocratique du Congo, pour essayer d'examiner toutes ces questions de sécurité. C'est la proposition faite par son représentant spécial dans la région des Grands Lacs. Trouvez-vous en cela une avancée?
Non, pas du tout. C'est pas la première fois qu'on entend ce genre de discours. Hein. C'est pas la première fois que ce soit l'Union européenne ou les règles de la communauté internationale. On a toujours entendu ça, mais il n'y a jamais eu de solution. C'est comme on disait au cours d'une des émissions ici même, les états généraux. Mais on connaît déjà tous les problèmes, on connaît déjà toutes les solutions, mais on veut encore se réunir. Mais ça ne sert à rien. Moi, je ne trouve pas que ça va pouvoir nous avancer en quoi que ce soit. Il faut un gouvernement fort. Sur tous les plans, diplomatique, militaire, sur le plan de l'administration, c'est l'unique solution pour régler tous les problèmes.
Patrick, vous êtes toujours en ligne?
Oui, je suis toujours en ligne.
Ouais, s'il est vrai, Patrick, que les Rwanda est derrière Laurent Kunda, mais vous avez entendu que les responsables militaires de ces deux pays, auxquels ajoutés ceux de l'Ouganda et du Burundi, s'étaient réunis lundi et mardi dernier à Kigali pour discuter de la sécurité dans leurs zones transfrontalières. Quand vous prenez toutes ces rencontres et vous voyez la situation sur terrain, vous en faites quelle lecture?
Bah, effectivement, il y a ce qui se dit officiellement et ce qui se fait officieusement. Dans tout ce rapprochement de ces personnes, effectivement, nous, les Congolais, on ne trouve pas notre intérêt. Même quand il faudrait parler de la région des Grands Lacs, nous sommes les grands perdants dans tout ça. Parce que eux, ils négocient, c'est vrai, mais sur quelle base et à propos de quoi? Parce que si ça dépend seulement de la paix en République démocratique du Congo, qui serait la source de paix de la sous-région, mais moi je me demande, que font-ils de tous ces entretiens qu'ils ont souvent eus avec les dirigeants congolais? Ils ne tiennent vraiment pas compte de ça. Ils sont souvent dans des déclarations, mais sur le terrain, ce qui se fait, c'est autre chose.
Oui, Patrick, il y a même les Rwanda, lors de cette dernière rencontre, qui a souhaité que l'armée congolaise lui accorde un feu vert pour intervenir dans les opérations de neutralisation des FDLR sur les sols congolais. C'est à quoi les autorités congolaises s'opposent. Elles ont même préféré que ces opérations, j'ai dit, menées par les brigades mixées, soient confiées aux brigades brassées. N'est-ce pas là peut-être la raison qui irrite les Rwanda?
Ben, effectivement, moi ça m'écœure d'entendre ça. Si le gouvernement rwandais demande à intervenir, mais ils l'ont déjà fait, sans l'aval du Congo. C'est pas seulement parce qu'ils viendront par une voie officielle diplomatique qu'ils donneront une autre lecture. Non, ils sont déjà chez nous. Regardez les déclarations des FDLR. C'est vrai qu'il faudra encore vérifier cette information, mais quand ils se mettent à crier, c'est que, effectivement, vous savez, à l'Est, en termes en soi, à l'époque,
populations entre elles, elles n'ont rien, mais ce sont les dirigeants. Donc il y a des Congolais qui vont au Rwanda, il y a des Rwandais qui viennent au Congo. Donc en termes d'infiltration, si le FDLR se met à crier, c'est qu'il y a eu quelque chose dans ce sens-là. Donc, il faudra encore vérifier. Et avoir tout ça, je ne suis pas sûr que le Rwanda le dit par gaieté de cœur, non. Ils veulent seulement une chose, ça on le lit entre les lignes, c'est venir, avec cette raison des FDLR, occuper une partie du territoire congolais. En fait, c'est ça le final pour Kagame.
Oui, Bernard Kambere, Laurent Nkunda, qui nargue le gouvernement congolais depuis 4 ans, il est là, presque calme dans la région. Que faut-il faire pour arrêter son aventure que d'aucuns considèrent désagréable dans le Nord Kivu?
Ben, tout simplement avoir un gouvernement fort, avoir une armée forte, tout simplement. Parce que même si, bon, je vais revenir à ce que le Rwanda a déclaré, si le Rwanda se permet de dire que ce problème de FDLR, qui va se durer, si le Rwanda se permet de dire qu'ils veulent venir en République démocratique régler ce problème, c'est à la limite une insulte contre notre armée. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ce problème, ces gens sont dans notre pays depuis 14 ans. Et personne n'a voulu. Bon, c'est vrai, à un moment, le FDLR était allié à certains qui sont au pouvoir aujourd'hui à Kinshasa. C'est vrai. Ça, on peut considérer que... Mais alors, pourquoi ne pas les déloger? Est-ce qu'on peut dire que le FDLR continue à être les alliés de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à Kinshasa? C'est très grave si c'est ça. Mais si notre armée n'est pas forte, et qu'on continue à nous narguer comme ça, on n'arrivera à rien. J'ai vu une dernière interview de Laurent Nkunda. Il dit que ceux qui sont forts arrivent le pas de nos yeux. Ça, c'est encore narguer nos armées. Maintenant, on tâtonne au niveau de l'état-major général, tantôt ce sont les troupes musclées qui dorment aussi, tantôt on négocie avec lui, tantôt il est déchu, général déchu, tantôt on négocie avec lui, on ne sait pas ce que cherche le gouvernement. Où on a une armée forte? Et il y a eu un moment où ce pays était respecté. Des petites modèles, des petits pays ne pouvaient, petits pays, excusez-moi, hein, même par la taille, petits pays ne pouvaient rien dire devant le grand Zaïre à de l'époque. C'est l'armée congolaise, l'armée générale qui régit tout le petit conflit autour du pays de la République démocratique du Congo. Mais maintenant que l'armée est à genoux, et on ne sent pas une volonté politique de mettre notre armée. Que font tous ces militaires qui naguent les gens à Kinshasa, qui nous montrent des chars et des combats qui font le machinisme à Kinshasa? S'ils viennent à l'Est, mettre la paix à l'Est, et au moins tous ces petits pays ne parleront pas de nous. Comment expliquer que le Rwanda peut se permettre de dire, c'est-à-dire que notre armée est faible, et les petits Rwandais peuvent venir résoudre ce problème de FDLR? C'est ça que ça veut dire. Comment expliquer que Kunda a nargué toute une armée pendant des années, et alors il y a des complicités avec le pouvoir de Kinshasa, et alors on le faible qu'on se taise, au lieu de crier qu'aujourd'hui ce sont les troupes d'Afrique qui n'ont même pas de logistique d'ailleurs, et dont l'argent de la fin est de tourner à Kinshasa. Tantôt ce sont les troupes mixtes qui n'arrivent pas à résoudre ce problème, et Kunda qui crie, et Kunda n'a des gens, il nous faut une armée et des autorités. Sans des autorités sérieuses à Kinshasa, c'est une véritable volonté politique, parce que moi, je ne vois pas une volonté politique de régler ce problème de Kunda. On voit Kunda à Goma, tout le monde sait où il habite à Goma. Les gens le voient circuler, il accorde des interviews, tout le monde sait où il est. Est-ce qu'on n'a pas un commandant pour aller l'arrêter?
Oui.
Il veut pas l'arrêter.
Tout le monde sait là où il est. Je comprends votre acharnement à Benoît, tout le monde sait là où il est, tout le monde le voit. Tribune de la presse, retour sur les faits marquants de la semaine. Dans ces ciseaux, je vous rappelle, nous avons Désiré Bayeré, qui est rédacteur en chef du journal Dix Citoyens. Au téléphone, c'est Benoît Kambere et Patrick Casson. La retenue à la source des 40% des recettes de l'État par les provinces pose problème. Certaines provinces, notamment les Katanga et les Bakongo, qui génèrent beaucoup plus de recettes, tenaient absolument à opérer cette retenue le plus tôt possible. C'est à quoi les gouvernements centraux s'opposent, estimant que toutes les conditions ne sont pas encore réunies pour cette année C'est aussi le point de vue d'autres provinces moins nanties. Suivez les propos de José Makila, gouverneur de la province de l'Équateur. Il est joint par Guy Roger Nampala.
Nous avons trouvé un modus vivendi autour de l'article 175 de la Constitution. Étant donné qu'on doit élaguer tous les préalables avant l'application de cet article, nous pensons que nous pouvons fonctionner avec le régime de 20% jusqu'au mois de décembre. Et à partir du 1er janvier 2008, là, nous allons entrer en plein pied dans le régime de 40% de retenue à la source. Qu'est-ce que cela veut dire? Le budget 2007 a été déjà voté et l'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée nationale. Donc nous ne pouvons plus au jour d'aujourd'hui remettre en cause le budget qui a été voté par l'Assemblée nationale. De deux, la caisse de péréquation n'est pas encore mise sur pied. Ceci dit, les provinces qui ne vont peut-être pas faire face à des charges rétrocédées ne pourront jamais satisfaire les fonctionnaires comme les enseignants. Et on ne peut pas accepter de voir Congo se développer à deux vitesses.
Monsieur le gouverneur, est-ce qu'il y a eu pression du côté du gouvernement pour que vous signiez cet accord et arriviez à faire des concessions, si on peut ainsi le dire?
Il n'y a eu aucune pression de part et d'autre. Les points de vue peuvent être divergents. Ça, c'est tout à fait normal. Nous sommes en démocratie. Et nous sommes appelés à gérer ensemble ce pays. Il n'y a pas un casus belli entre l'exécutif provincial et l'exécutif national. Donc, il n'y a pas question de pression là-bas. C'est question de comprendre le mécanisme, comment ça doit fonctionner, comment on doit appliquer le texte. Il y a des préalables, et ces préalables-là ne viennent pas du gouvernement. Maintenant, nous annonçons la décentralisation, c'est-à-dire les services centraux doivent fonctionner autrement. Donc, commençons en amont pour terminer en aval.
Désiré, comment trouvez-vous la démarche du gouvernement dans cette affaire? Qui a tort et qui a raison?
Bon, moi je pense que celui qui a tort, c'est cette classe politique qui s'est précipitée à élaborer des textes sans mettre les mesures d'encadrement, hein, au même moment. Parce que la Constitution consacre les 40%, mais on ne se rendait pas compte que ça allait poser problème pour le fonctionnement du gouvernement central. Maintenant, on se rend compte que les provinces vont être très riches, les gouvernements provinciaux vont être plus riches que le gouvernement central, et à ce moment-là, le gouvernement central cherche maintenant à bloquer. C'est ça le vrai problème. Et ça, on a toujours vu. La classe politique congolaise se précipite à signer des textes, à signer des accords, mais on ne se demande pas comment on va les appliquer, quels sont les mécanismes, quelles sont les mesures d'encadrement. C'est tout le problème qui se pose aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, les Katanga et les Bas-Congo, peut-être la province orientale, je ne sais pas, toutes ces provinces-là, si on applique aujourd'hui, eh bien, elles risquent de devenir vraiment indépendantes immédiatement. Et le gouvernement a peur de cela. C'est ça les vrais problèmes.
Je vais prendre celui-là. Patrick Casson, on a vu le président de la République s'impliquer lui-même pour mettre fin à cette guerre entre les gouvernements centrales et les provinces. Il a dû réunir mardi les gouverneurs des provinces et les présidents des assemblées provinciales pour leur dire qu'il y a, s'il y a retenu à la source et au mois de janvier 2008. Décidément, on peut dire que le président de la République s'est montré garant de la nation.
Oui, il est intervenu au bon moment pour apaiser tous les esprits, surtout ceux qui ne s'accordaient pas si facilement. Mais c'est vrai qu'il ne faudrait pas oublier ce que c'est vrai que la Constitution consacre et qu'il y a des préalables, bien entendu, à tenir compte avant que toutes ces retenues se fassent. Mais il y a aussi le facteur temps qui court après. Voilà pourquoi cette intervention du président tombe à pic, parce que il n'y a plus que 4 mois ce dernier semestre pour que et le gouvernement central et le gouvernement provincial puissent tester un peu cette réalité de retenue, parce que n'oubliez pas qu'après ces 4 mois, il n'y aura plus que 24 mois, et là on devra passer à une vitesse supérieure. Il n'y aura plus affaire à 11 provinces, mais on aura affaire à 25 provinces, si je ne m'abuse. Et c'est en fait cette même logique qui doit se suivre. Donc, plus vite on aurait déjà tenté cette expérience de retenue de 40%, plus le gouvernement central sera fixé sur sa façon à elle d'intervenir et d'agir par rapport aux provinces qui sont encore faibles vis-à-vis de cette logique. Donc pour moi, l'intervention du président de la République tombatique, c'est déjà bien
quand on parle, comme dit le Zematula, de 20%, mais c'est vrai, il n'y a pas un développement à deux vitesses, mais ce qui est vrai aussi, toutes les provinces ne vont pas se développer au même rythme. Donc il faudrait, à mon sens, il a bien fallu que le gouvernement central accepte de lâcher parmi ces trois géants, Kinshasa, Bakongo et Katanga, ne fût-ce que deux, essayer d'abord de faire cette retenue, et puis eux, en termes, parce que tout se fait en termes budgétaires, ils ne parlent que des chiffres, mais il y a une autre réalité, c'est l'espèce qu'on en verra, qui entrera en danse, c'est ça qui fait la vraie retenue. Comme le ministre du budget de Katanga avait relevé que de janvier à mars, ils ont entré 5 milliards de francs congolais et qu'au mois de juin, cela est passé à 10 milliards. Donc, bien entendu, les retenues se feront à 40%, mais il y aura des chiffres différents. Donc, il est vraiment important que, durant ces 4 derniers mois, que la République entre déjà dans cette danse de retenue pour que, en janvier 2008, qu'il n'y ait plus de casse.
Oui, Benoît Kambéré, vous êtes toujours en ligne.
Oui.
Oui, et les Katanga et les Bakongo qui tenaient absolument à opérer cette retenue ce mois de septembre ont lâché prise. Est-ce par conviction ou par contrainte?
Ben, moi, je ne suis pas du tout convaincu que c'est par conviction. J'ai été au Katanga le mois dernier. La détermination des autorités du Katanga était telle que, moi je ne voyais pas comment. J'ai même entendu le gouverneur Katumbi menacer de démissionner si cela n'était pas en fonction à partir du 1er septembre. C'est, à mon sens, c'est tout simplement par contrainte, compte tenu de la discipline, entre guillemets, des partis ou des composantes au pouvoir. Et là, encore une fois, moi je voudrais plutôt faire ressortir le fait que la légèreté un peu de la, je ne l'appelle même pas classe politique, je l'appelle des hommes politiques congolais. Personne n'a demandé au gouvernement central de fixer la date du 1er septembre pour l'entrée en fonction de ça. Tout le monde a vu comment c'était difficile dès que le gouvernement provincial soit entré en fonction. Tout le monde voulait appliquer directement à quelque chose qui est constitutionnel. Encore une fois, il y a eu des organisations, on se demande à quoi ils jouent, de quoi ils ont peur, cela est écrit noir sur blanc dans la constitution du pays. Après, ils ont négocié, après la menace des gouvernements provinciaux et des assemblées provinciales, le gouvernement central a fixé lui-même la date du 1er septembre. On ne respecte pas. Maintenant qu'on vient de fixer, paraît-il, une autre date, le 1er janvier, qui nous dit que cela sera respecté? Tout le temps, cela est écrit dans le souverain de la Constitution.
Ouais,
le problème, c'est le respect de la parole de nous, le non-respect de ce qui est écrit. Voilà ce qui arrive malheureusement à nos hommes politiques, que moi je ne peux pas appeler une classe politique.
Oui, Benoît, c'est la question que nous voulons poser à Désiré. Désiré, voyez-vous cette retenue à la source par les provinces opérationnelles, comme l'a promis le chef de l'État à partir de janvier 2008?
Bon, moi je pense que ce sera possible. Ce sera possible parce que, comme Benoît l'a dit, après ces différents reports, je pense que maintenant il en va aussi de la crédibilité du chef de l'État. Hein. C'est maintenant que lui-même est intervenu. La fois passée, c'était le ministre de l'Intérieur, c'était le ministre du Budget, et cette fois-ci, c'est lui-même qui est intervenu. Et si cela n'est pas appliqué, ben, je vois mal comment il va encore garder la première popularité.
Benoît l'a réalisé, c'était promis au mois de septembre, le 1er septembre, le gouvernement n'est pas en mesure de le faire, il promet pour le mois de janvier. Et de l'autre côté, il y a deux lois qui doivent être traitées au Parlement, la loi financière et la loi sur la décentralisation. Vous pensez que ça va marcher, Patrick?
Mais c'est ce que je dis. Maintenant que le président de la République lui-même s'est impliqué, on l'a vu, eh bien, si cela n'est pas fait, ben, sa cote de popularité, qui, soit dit en passant, est quand même en train de baisser aussi avec ce qui arrive dans l'est du pays, ça va encore se détériorer davantage. Et moi, je pense qu'il en va de sa crédibilité maintenant de prouver que réellement l'engagement qu'il a pris va être respecté. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est que les provinces qui voulaient faire entre guillemets, la rébellion, elles ont attendu un peu, mais maintenant, les gouverneurs, les présidents des assemblées provinciales, si cela n'est pas appliqué, eh bien, ils auront un problème dans leur province. Donc, on n'a pas le choix maintenant.
Ok, tribune de la presse, troisième sujet de ce soir. Les agents nationaux de la MONUC ont débraillé pendant 3 jours. Ces agents en arrêt de travail réclamaient la révision des salaires et des grades, les paiements des heures supplémentaires, des meilleures conditions de transport et plus de considération. Ces agents ont tout de même repris le service mardi dernier. Je vous propose de suivre ce reportage de Babine Pomo.
Cet arrêt de travail est observé depuis 1h du matin de ce jeudi. Il touche la plupart des implantations de la MONUC à travers la RDC. À Kinshasa, plusieurs membres du personnel national étaient rassemblés jusqu'en fin d'après-midi devant le quartier général de la MONUC, chantant et dansant au rythme de chants, fanfares et sifflets. À Goma, Kisangani, Bukavu et d'autres principales villes du pays, des rassemblements pacifiques ont été organisés. Mais ce mouvement n'a pas été observé à Bandundouville, à Mahagi, Pandroma et Arou dans la province orientale. Les salariés réclament des révisions des salaires et des grades, l'amélioration du paiement des heures supplémentaires, des meilleures conditions de transport et plus de considération. C'est quand indiqué Gershom Nondo, président du comité du staff national. Pour sa part, Kema Saiki, porte-parole de la MONUC, a déclaré qu'une partie des revendications des agents peut trouver des solutions au niveau local. D'autres nécessitent l'intervention de New York. Pour lui, il y a une volonté des responsables de la mission de trouver des solutions négociées. L'essentiel étant qu'il y ait un dialogue entre les parties.
Benoît Kambéré, la grève dans le système des Nations Unies, ça vous étonne?
Ben non, c'était prévisible. Nous qui sommes souvent en contact avec nos collègues qui travaillent dans le système des Nations Unies, cela s'est tramé déjà, il y avait déjà des pourparlers, des contacts, des communications, mais malheureusement, devant la foule de règles un peu de l'administration centrale à Kinshasa, cela est arrivé, cela s'est passé à l'intérieur. C'est tout à fait légitime que nos collègues qui travaillent aux Nations Unies fassent ces revendications, qu'ils aient un peu plus de considération. Moi, je pense que c'est légitime que tout le monde qui travaille aspire à mieux.
Oui, Désiré Bahiré, vous faites aussi fonctionnaire des Nations Unies. Vous avez travaillé pour la MONUC et vos anciens collègues ont grévé, réclamant un tas de choses. Et comment vous trouvez les redémarches?
Bon, je me dis, toutes ces revendications, ce n'est pas nouveau ça, hein, c'est des choses qui datent de longtemps. Mais quelque part, je pense qu'il faut être aussi honnête, lorsqu'on est on travaille dans les systèmes des Nations Unies, il n'y a pas de convention collective, comme on l'a dit. Ça m'étonnerait aussi, je pense, les syndicats, oui, mais il y a une certaine forme d'exercer ces revendications, et c'est là où nos amis ont quand même un tout petit peu, entre guillemets, péché, parce qu'on ne devait pas arriver à ce genre de manifestations, d'autant plus que le dialogue n'était pas rompu. Mais, d'autre part, du côté de l'administration, ce que je disais au départ, c'est pas la première fois qu'il y ait ces revendications. Je me rappelle, il y a quelques années, on l'a fait parvenir même à Jean-Marie Guénaud, qui est secrétaire général adjoint, chargé des opérations de maintien de la paix, parce que la MONUC est aussi une mission de maintien de la paix. Et il est vrai que Benoît a dit, la sourde oreille, c'est vrai, c'est-à-dire il faut quand même, quelque part, considérer les revendications, donner satisfaction, mais de l'autre côté, ça ne nécessite pas de faire du tapage, des bruits par-ci, par-là.
Ouais, mais quand vous réclamez, on ne donne pas, vous réclamez, on ne donne pas, et quelle sera votre attitude?
Mais je pense que la voie du dialogue n'était pas complètement ou totalement rompue. Et je pense qu'il y avait encore des possibilités de dialoguer. Mais d'autre part, j'aimerais savoir si vraiment les personnels en MONUC, le personnel local a pu quand même se renseigner sur les avantages. Et c'est là où je me dis, les gouvernements devaient aussi s'impliquer. Au niveau de notre ambassadeur près les Nations Unies, c'est notre ambassadeur. Nous faisons partie aussi des Nations Unies, parce que nous sommes membres de l'ONU. Est-ce que notre ambassadeur a pu nous donner toutes les indications sur les salaires, les avantages d'un personnel, d'une mission de maintien de la paix? Ça, nous devons aussi le savoir, ça devait être aussi une contribution de notre gouvernement. Mais je me dis, bon, Dieu merci, les choses se sont décantées, les travaux ont pu reprendre, même si les revendications restent toujours sur la table. Il faut qu'on trouve la solution, mais il ne faut pas aussi qu'on arrive toujours à des tapages de ces gens.
Ouais, et alors ça donne quelle image?
Ah oui, ben vous savez, ça donne quelle image? Pas facile de répondre. Ça vous donne l'image que partout il y a des problèmes et partout il faut trouver des solutions. Voilà.
D'accord, Patrick Casson, vous au Bas-Congo, quelle analyse avez-vous faite de cet arrêt de travail par les agents locaux de la MONUC?
S'il y a des mauvais garçons dans l'armée onusienne, il ne peut manquer de mauvais gestionnaires dans la MONUC. Ça c'est sûr. Le système américain, je m'excuse, américain ou anglais, en termes de gestion, a toujours été supérieur à celui du milieu francophone. Et le modèle dans ces organisations mondiales, c'est l'ONU et la FIFA. Et de là, voir et entendre ce qui s'y passe, on se demande vraiment où va ce monde. Mais ce qui est vrai, c'est que par moment, il faut arriver à tenir tête à tous ces Occidentaux quand ils viennent dans nos pays, que ce soit en mission des Nations Unies et autres, quand ils se familiarisent avec cet excès d'hospitalité qu'ont les Sud-Africains en général et les Congolais en particulier, finalement ils se lassent de remettre les Congolais dans leurs droits. Donc par moment, raison pour laquelle vous l'avez tous relevé là-bas en disant que les négociations ont commencé il y a longtemps, mais il n'y a jamais eu de suivi fort, il n'y a jamais eu de changement de position. C'est seulement parce que le Congolais, même quand il est maltraité, chez lui ou ailleurs, il continue à être sociable, ouvert. Mais je pense que sous d'autres cieux, ça serait pas passé comme ça, parce que déjà, en termes de négociation, il y aurait eu un franc-parler tel que ces personnes, ces responsables de l'ONU et de la MONUC par surcroît, auraient quand même changé la situation. Mais de là, les confrères et tous les agents de la MONUC qui vont passer dans les rues, crier, oui, c'est une forme de revendication quand on est vraiment à bout des nerfs parfois, quand il y a la rentrée scolaire à 2 semaines et quand il y a des maisons à payer à plus de $300 à Kinshasa, vous voyez avec tout ça, par moment, on va au-delà de la logique, hein, on craque un peu, voilà pourquoi je dis à désirer de ne pas être trop sévère, quoi.
Ok. Benoît Kamere, vous pensez, vous estimez que cette grève a donné une leçon et elle va apporter des fruits?
Ben, je l'espère vivement, parce que sinon, pourquoi en fait? Parce que c'est vraiment une forme de revendication. Je dois dire tout à fait que je ne suis pas tout à fait d'accord avec Désiré. Le droit de gréver est constitutionnel, le droit de revendiquer est tout à fait légitime.
Mais ce n'est pas dans le système de la
Constitution. C'est le droit de l'homme. Que maintenant, que les gens manifestent pour avoir un peu plus de considération, tout le monde ne peut que nous ça. Quelle que soit la forme, et heureusement d'ailleurs, c'était des manifestations pacifiques, mais vraiment j'espère que tout le droit a entendu et que le fonctionnaire congolais des Nations Unies sera mieux considéré et il aura un peu plus de considération de la part des gens qui souvent ne sont pas plus calés que nous, ne sont pas plus socialistes que nous, et qui malheureusement, heureusement ou malheureusement, je connais mal le système des Nations Unies, ont des salaires de moins plus élevés que le nôtre, ainsi de suite. Je crois que c'était quelque chose d'important. Les gens ont attendu pendant très longtemps qu'il faudrait qu'ils sachent que les Congolais qui travaillent aux Nations Unies peuvent aussi arriver à bout et même craquer. Il l'a fait en allant dans la rue. C'est quelque chose qu'on doit encourager et que vivement qu'on trouve des solutions.
Oui, Désiré, en fait, cette grève aussi a étonné la population dans la cité, la population qui croyait que les agents onusiens, et onusiens plutôt nationaux, étaient mieux payés.
Oui, c'est ça aussi, hein. C'était bon aussi de faire, c'était bien aussi de faire cette grève qui a quand même désillusionné aussi, hein, ce qu'on avait
comme perception.
Vous m'avez présenté tout à l'heure comme un ancien de la MONUC aussi, mais vous savez, quand j'ai démissionné de la MONUC, les gens m'ont dit que j'étais fou. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un quitte la MONUC là où il y a tout l'argent qu'il faut. C'est vrai que les gens sont bien payés de très loin que les fonctionnaires, par exemple.
De l'État.
De l'État, oui, de très loin. Mais il y a des ONG, il y a des ambassades, d'autres institutions qui payent aussi mieux que la Monique, c'est vrai, on peut le vérifier. Mais là aussi, je pense que d'autre part, ça pourra peut-être aider aussi, hein, vous, les Congolais qui travaillez à la Monique, face à tous ces membres de famille qui pensent que voilà, vous avez tout l'argent du monde, face aux bailleurs qui pensent que vous avez tout l'argent du monde, ils vont quand même comprendre que voilà, c'est pas la fin du monde ici, même si, je rappelle, c'est de très loin supérieur au salaire des fonctionnaires de l'État.
Voilà, tribune de la presse, ça en est si fini pour ce soir. Merci à Nadine Foula qui a réalisé cette émission. Merci à tous nos invités, Benoît Cambéré de la revue Renet, Désiré Bayeré du journal du Citoyen, Patrick Casson, directeur de programme de la radio télé évangélique de Mwanda au Bas-Congo. Nous disons aussi merci à Alain Gauche, c'est lui qui tenait la technique.
Okapi, okapi.